97.3, on vous donne le jus.
Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGAFM, et j'ai le plaisir de vous retrouver en ce mercredi 27 mai 2026. Aujourd'hui, mon collègue Alexis Goyer, journaliste à la salle des nouvelles de CAGAFM, discute de la maladie de Lyme. Avec l'arrivée des beaux jours et des températures plus douces, le risque de se faire mordre par une tique augmente. Alexis s'entretient à ce sujet avec Christelle Aïcha Kommokto, médecin spécialiste en médecine préventive au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Mais on débute l'émission avec une autre entrevue d'Alexis, cette fois à propos du financement accordé à l'Outaouais par Santé Québec, qui augmente de 1,4% par rapport à l'année précédente. Pour nous en parler, Alexis reçoit à son micro le président directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, le docteur Marc Bilodeau. Bonne émission.
Au 97.3, on vous donne le juste. C-A-G-A.
Le gouvernement du Québec a révélé le montant de ses enveloppes budgétaires pour les différentes régions du Québec concernant le financement de la santé. En Outaouais, il s'agit d'une légère hausse de 1,4%, ce qui déçoit certains acteurs du milieu qui s'attendaient à plus. On en parle avec le président-directeur général du CISO, le Dr Marc Bilodeau. Premièrement, M. Bilodeau, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette enveloppe budgétaire?
Oui, en fait, on a reçu notre allocation de Santé Québec. En fait, Santé Québec qui reçoit les fonds du gouvernement puis les distribue par la suite à l'ensemble des 30 établissements de la province. Puis on a eu une augmentation cette année de à peu près 20 millions de dollars, ce qui nous permet de maintenir le niveau d'activité clinique qu'on a atteint là, au cours des derniers mois de l'année 2025-2026. Donc, ça nous met sur une trajectoire où est-ce qu'on peut poursuivre l'élan qu'on a pris au cours de la dernière année.
C'est quoi les raisons de cette enveloppe? Est-ce que c'est un chèque en blanc ou il y a des conditions où il faut dépenser l'argent?
Bien, c'est définitivement pas un chèque en blanc. En fait, c'est une allocation qui est relativement précise sur comment on peut la dépenser. L'objectif étant évidemment de maintenir le niveau de soins actuel puis d'augmenter quand c'est nécessaire. La nouvelle formule d'allocation de Santé Québec, du siège social de Santé Québec, est basée, entre autres, sur les volumes de soins qu'on donne, les besoins de la population. On a également, en fait, une allocation qui est en lien avec la performance de nos secteurs. Puis tout ça amène à une allocation qui est différente de ce qu'on a eu dans le passé avec nos budgets historiques. Ce qui fait que progressivement, en fait, on va répondre davantage aux besoins de la population des différentes régions du Québec, qui sont toutes un peu uniques, évidemment, dans leur configuration. Donc, un exemple de ça, en fait, c'est qu'au cours de la dernière année, on a réussi, par exemple, à faire plus de chirurgie, donner plus de soins à domicile. Bien là, on est compensé cette année avec des augmentations qui ont eu lieu à la fin de l'année dernière. Puis on a les mêmes budgets cette année pour maintenir ces augmentations-là qu'on a fait dans nos volumes, dans ces deux secteurs-là, comme exemple.
Et cette nouvelle formule que vous me parlez, est-ce qu'elle simplifie les choses ou elle les complexifie?
C'est complexe au début quand on met en place une nouvelle façon de faire, évidemment, donc il faut s'approprier ces changements-là. Globalement, par contre, on va être gagnant de cette formule-là, qui est en amélioration de celle de l'année dernière, puis l'année prochaine, on va encore améliorer cette façon de faire-là. Donc, moi, je suis confiant qu'on est sur la bonne voie avec cette façon de faire-là, puis ultimement, la région va en sortir gagnant.
Et est-ce que le financement a été augmenté? Et si oui, de combien? Et pouvez-vous me parler plus généralement là, de l'état de la santé en Outaouais? Où est-ce qu'on est en ce moment? C'est quoi nos enjeux?
Ouais. Bien, l'augmentation est de 1,4% par rapport à notre budget de l'année dernière, ce qui est quand même une augmentation là, qui est présente, qui est substantielle. Évidemment, ça ne tient pas compte, ça, de tous les budgets qu'on a au niveau de l'infrastructure. On a plusieurs dizaines de millions, en fait, qui sont mis de côté pour les infrastructures. Entre autres, on va pouvoir agrandir puis reconstruire un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté à Gatineau, dans le secteur Hall. qui va nous permettre de fermer une unité de débordement qu'on avait ouvert à l'hôpital de Hull, par exemple. On a également les budgets du nouvel hôpital qui sont pas inclus dans cette augmentation-là. Donc, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, il faut regarder également les budgets en capital qui sont inclus là-dedans. Si on regarde les besoins en santé, ben c'est clair qu'on est en mode rattrapage en Outaouais. Hein? On a pendant plusieurs années, on a été dans de la difficulté, je dirais, à répondre aux besoins de la population, principalement à cause des enjeux de ressources humaines que l'on vit ici. Fait que clairement, on doit reconstruire cette main-d'œuvre-là, puis ça passe beaucoup, cette reconstruction-là, par l'investissement dans les institutions académiques, les institutions de formation en région. Donc, le Cégep de l'Outaouais, le Collège d'Héritage, l'Université du Québec en Outaouais et le campus de l'Université McGill qui est chez nous. Fait que ces quatre institutions-là sont les principales au niveau postsecondaire, puis évidemment, tous les centres de formation professionnelle secondaire qui constituent une formation pour un bassin de main-d'œuvre important. Donc, c'est là-dessus qu'on met nos investissements au cours des prochaines années, de façon par la suite à pouvoir capitaliser sur la main-d'œuvre augmentée qu'on va être capable d'embaucher pour faire plus de volume de soins pour la région.
Et est-ce que vous considérez qu'une augmentation de 1,4% c'est suffisant ou vous auriez espéré ou vous avez besoin de plus?
Ben, c'est sûr qu'on souhaiterait toujours avoir plus, c'est bien évident. Que ceci nous force à faire, par contre, c'est de s'assurer que on est pleinement performant dans tous nos secteurs. Puis on sait actuellement, en comparant nos chiffres avec les régions comparables, qu'on n'est pas aussi performant qu'on devrait l'être dans certains de nos secteurs, entre autres dans nos salles d'urgence, dans une unité de soins en hôpital. Donc, clairement, on a du chemin à faire pour s'approprier cette rigueur-là, continuer à s'approprier cette rigueur-là, parce que c'est une démarche qu'on a commencé quand même il y a plus d'un an, pour réussir ultimement à se libérer une marge de manœuvre qui va nous permettre de continuer à faire davantage. Donc clairement, on est sur une trace d'amélioration. Ceci étant dit, même si j'avais des dizaines de millions de dollars de plus, je serais limité dans ma capacité de les dépenser parce que je manque de main-d'œuvre. Donc, si j'ai pas de main-d'œuvre pour mettre des soins, cet argent-là, j'aurais pas moyen de la dépenser. C'est pour ça que l'investissement initial au cours des prochaines années devra être davantage, de mon point de vue, au niveau académique, au niveau de la formation. Puis par la suite, on va être capable de créer davantage de main-d'œuvre, être capable de l'embaucher, puis là, on va être capable d'avoir du budget opérationnel pour répondre aux besoins de la population d'une meilleure façon qu'on est capable de le faire présentement.
Parlez-moi-en un peu plus de la formation, justement. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en cours de ce côté-là présentement?
Absolument. On a plusieurs projets en cours, pour rehausser la taille des cohortes puis de la diplomation qui en résulte au niveau de nos différents secteurs. En soins infirmiers, par exemple, c'est ce qu'on travaille avec les cégeps, les collèges et l'université pour augmenter les cohortes. On regarde également à développer des nouveaux programmes. Il y a déjà eu une annonce de l'UCO, entre autres, qui a annoncé la création d'un programme en physiothérapie. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Spécifiquement dans la vallée de la Gatineau, en fait, un des projets qui est très porteur, c'est le projet des infirmières diplômées hors Canada, qui nous permet de donner un rehaussement sous forme d'une attestation d'études collégiales à 18 infirmières qu'on a ici dans la vallée, qui sont actuellement formés pour être capables de devenir infirmiers-infirmières, obtenir leur permis de pratique au Québec, puis par la suite être employés par nous. Donc, c'est le genre d'initiative que l'on va poursuivre, évidemment, de façon à bonifier notre main-d'œuvre, mais également fidéliser nos employés, parce que souvent, on le fait dans des contextes où est-ce qu'on offre ces formations-là à des gens déjà à notre emploi. Donc, ça nous permet de fidéliser leur contribution à l'organisation.
Et on en parle souvent, il y a un statut particulier qui a été accordé à l'Outaouais par le gouvernement provincial en raison de son sous-financement dans plusieurs matières, mais dont en santé. Est-ce que vous avez l'impression que dans cette enveloppe budgétaire, ce statut particulier a été pris en compte?
Il y a une certaine prise en considération. Par contre, ce qui va au-delà de notre enveloppe budgétaire, ce sont toutes les incitatifs qui ont été inclus dans les dernières négociations de conventions collectives avec nos trois syndicats, dont une vient d'être annoncée d'ailleurs avec les détails de ça, là, avec la CSN, qui nous permet entre autres d'avoir des primes d'embauche pour certains types de professionnels. On a également des primes d'installation avec le personnel infirmier. Fait que ça, c'est des ajouts en fait intéressants qui sont pour la région puis qui contribuent à pallie un peu la situation unique dans laquelle l'Outaouais est de par notre proximité avec la région de la capitale nationale fédérale puis les enjeux de compétitivité en ressources humaines que ça occasionne.
Et ça aussi, ça doit aider la conclusion de plusieurs conflits de travail qui avaient, tu sais, la fin des négociations, ça doit quand même être quelque chose de positif pour le système.
Absolument, absolument. À la fois pour nos trois syndicats, mais également avec les fédérations médicales, parce qu'on sait que ça a brassé pas mal au cours de la dernière année. Donc, le fait de retourner à un niveau où est-ce qu'on peut être en mode collaboration plutôt que d'avoir cette épée de Damoclès-là qui pèse sur les négociations, bien, nous, ça, c'est très facilitant, évidemment, dans nos relations avec nos professionnels puis nos médecins, bien évidemment.
Et pour finir, j'aimerais parler, on a parlé récemment d'une pénurie de personnel dans la nouvelle maison des aînés et alternatives de Maniwaki. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire davantage.
Oui, ben en fait, malgré cette pénurie-là, on a quand même réussi, je dirais, à ouvrir à pleine capacité ou à peu près. Je pense qu'il ne reste un lit qui est disponible actuellement. Donc, globalement, on est en belle posture. C'est certain qu'on a de l'aide d'autres régions. On a, entre autres, une contribution de l'équipe volante provinciale qui nous aide à maintenir certains de nos secteurs là dans la MDA et Maniwaki. Donc, clairement, on est en progression de doter les postes qui sont demeurés vacants. Puis je pense que les initiatives comme celle des infirmières diplômées hors Canada vont être aidantes dans cette démarche-là, tout comme toutes les initiatives qu'on a en cours pour les propres réseaux bénéficiaires, parce que c'est les deux types d'emplois qui sont les plus en demande, évidemment, dans une maison des aînés. Donc, on est en bonne posture, puis clairement, c'est un ajout très, très bon pour la région.
Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. C'est très apprécié.
C'est un plaisir, M. Goyer. Bonne journée à vous également.
Bonne journée. C'était Marc Bilodeau, qui est président-directeur général pour le CISO.
Restez à l'écoute. On fait une courte pause publicitaire et l'émission se poursuit tout de suite après. Alexis parle de la maladie de Lyme avec la médecin Christelle Aïcha Kommokto. 97.3.